Merci d'écouter RFI, il est 8h30 à Paris, une heure de moins en temps universel. Et tout de suite, le journal présenté par Édouard Dupénoat.
Avec deux procès à la une de cette édition, la suspicion de coup d'État, Boko Omeki et consorts devant la criette du Bénin. Hier, il n'y avait pas d'avocat entre ceux qui se sont dessaisis au premier jour et les commis d'office qui n'étaient pas encore désignés. Reste à savoir ce qu'il en sera dans une demi-heure. Et puis le procès de la chanteuse malienne Rokia Traoré, dont on entrevoit le dénouement. Elle est libre, en tout cas depuis hier soir. Un accord a été trouvé avec son ex-compagnon sur la garde et les visites de leur jeune fille de 9 ans. On parle Sahel et sécurité dans ce journal. 5000 hommes pour une force commune de l'AES. Contingent promis dans un délai très bref. Est-ce que c'est un vrai tournant sécuritaire ou un coup de communication politique? Et puis notre éclairage sur les Lakourawa, ce groupe qui opère à la frontière entre le Niger et le Nigeria. Plusieurs années d'existence, mais un changement de méthode qui inquiète les chercheurs depuis plusieurs semaines déjà. Y aura-t-il donc des robes noires ce matin devant la criette du Bénin pour défendre Olivier Boko, Oswald Omeki et leurs quatre co-prévenus? Le procès des six personnes poursuivies, notamment pour complot contre l'autorité de l'État, doit connaître donc d'ici une demi-heure une troisième audience, alors que les deux premières sont allées qu'à un quart. Mardi, à l'ouverture, les avocats de la défense se dessaisissent, ils dénoncent la composition de la criette, qui leur répond dans la foulée et les accuse de faire obstruction à la bonne marche de la justice. Elle ordonne que des avocats soient commis d'office. Pour hier, le délai était trop court. Jean-Luc Aplogan n'a pu que le constater.
Au second jour du procès, Olivier Boko et les autres prévenus étaient seuls, aucune trace de leurs avocats. La veille, ils se sont tous retirés du dossier pour, disent-ils, ne pas cautionner un folklore judiciaire. Les accusés devaient constituer d'autres avocats en 24 heures. À la barre, Olivier Boko déclare que c'était impossible vu leurs conditions de détention. « Nous sommes enfermés 24 heures sur 24 », insiste l'homme d'affaires. La cour annonce que la justice va commettre des avocats d'office pour les mises en cause. Olivier Boko tente de reprendre la parole, les juges ne l'écoutent plus et se retirent. L'homme d'affaires et l'ancien ministre Oswald Omeki s'agace et lâche quelques mots de désapprobation. C'est la fin de l'audience. Les proches de Olivier Boko, dont son épouse et sa fille, se tournent vers lui. Les gardes pénitentiaires vident la salle. Selon nos informations, la criette a adressé sa requête au bâtonnier Angelo Rumpati pour réclamer des avocats. On ignore si la demande fixe un délai. La présidente a renvoyé l'audience pour ce jeudi. On saura à l'ouverture, si la demande est satisfaite ou non. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Et cette autre affaire judiciaire, donc, qui n'est pas terminée à proprement parler, même si elle vient de faire un grand pas vers son dénouement. Rokia Traoré est libre. La chanteuse malienne a pu quitter la prison de Arun à Bruxelles hier soir. Elle est incarcérée depuis sept mois, en Italie puis en Belgique, dans le litige qui l'oppose à son ex-compagnon, père de leur jeune fille de 9 ans qui vit à Bamako. Finalement, les deux parties sont parvenues à un accord, Florence Maurice, dont les détails restent secrets pour la sérénité de l'enfant.
L'accord prévoit que Rokia Traoré et son ancien mari pourront chacun revoir leur fille, une enfant de 9 ans qui vit actuellement au Mali. Les conditions de ces retrouvailles ont été validées par la justice belge au cours d'une audience à huis clos, mais elles restent confidentielles pour l'intérêt de l'enfant selon ses parents. En attendant, cet accord permet à Rokia Traoré de quitter la prison de Arun dans le nord de Bruxelles où elle a été incarcérée fin novembre. La chanteuse n'est pas obligée de rester en Belgique, elle devra toutefois se présenter aux prochaines audiences, car ce n'est pas la fin du dossier judiciaire. L'affaire qui a valu à la chanteuse d'être condamnée à 2 ans de prison en 2023 doit être rejugée. Mais le nouveau procès qui doit permettre de statuer sur la garde de son enfant pourrait se dérouler dans un climat plus apaisé. À l'origine, son ancien mari, Yann Gossens, l'accuse de l'empêcher de voir leur fille depuis 2019. Cette affaire a détruit ma carrière, avait reconnu Rokia Traoré fin décembre lors d'une audience publique à Bruxelles après son extradition d'Italie.
Florence Maurice, l'Alliance des États du Sahel, toute proche de se doter d'une force militaire commune. Vous l'entendiez hier matin peut-être sur cette antenne, le ministre nigérien de la Défense de Transition qui annonçait que 5000 soldats, nigériens, maliens et burkinabés, donc, allaient constituer incessamment sous peu ce nouveau contingent. Bien coordonné, bien renseigné, pour traquer plus efficacement, disait-il, les groupes terroristes. Le chercheur Arthur Banga n'est pas aussi affirmatif, lui qui est un spécialiste des questions de défense à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il y voit plus un positionnement politique qu'une nouvelle stratégie militaire.
pour deux principales raisons. D'abord, la nature de la menace terroriste, qui est une menace asymétrique avec des techniques de guérilla qui sont très difficiles à manœuvrer pour des armées conventionnelles. Et puis, deuxième chose, tous les problèmes logistiques, financiers, problèmes de doctrine qu'ont les armées africaines quand elles doivent manœuvrer ensemble. En revanche, il y a quelque chose de positif ou il y a un plus dans l'initiative de la US. C'est une volonté politique plus affichée, puis plus déterminée que par le passé, parce que pour les leaders de la US, c'est le fondement de leur projet et c'est la seule façon de montrer que leur projet est plus légitime que les autres qui ont existé.
Justement, est-ce que cette annonce, ce n'est pas un moyen pour les dirigeants de l'AES de rassurer les populations, de se rassurer soi-même face aux attaques quasi quotidiennes des terroristes ?
Évidemment, le bilan sécuritaire de l'AES, il est beaucoup mitigé de ce point de vue, mais le bilan politique aussi, parce que finalement, depuis pratiquement 2 ans que la Confédération, l'AES a été créée, il n'y a pas encore d'actifs significatifs à mettre au compte de l'AES. Et donc là, il faut justifier cette confédération au-delà des discours panafricanistes, propagandistes et ultra-souverainistes qu'on peut entendre. Il faut de l'action et pour l'instant, l'action, il y en a très peu.
Arthur Banga, chercheur à l'université Félix Houphouët de Boigny, propos recueillis par Frédéric Gara. Un groupe armé qui inquiète aussi le Niger, mais du côté cette fois de sa frontière nigériane. Un groupe dont même le nom est encore relativement imprécis. Les habitants de cette zone frontalière les appellent les Lakourawa. C'est un mot qui désigne une recrue en langue Haoussa. À l'origine, ils se présentent comme des défenseurs des bergers peuls. Leur présence dans cette zone frontalière est attestée depuis 6 ou 7 ans. Mais depuis quelques mois, leur méthode et leur idéologie semblent avoir profondément changé, au point donc d'inquiéter les chercheurs et les autorités de part et d'autre, Lisa Fabian.
À l'origine, Lakourawa est le nom d'un groupe d'autodéfense appelé à la rescousse pour protéger certaines communautés du nord-ouest du Nigeria, cible d'attaques répétées de la part des bandits locaux. La connexion avec l'idéologie djihadiste est plus récente. Des liens existent notamment avec l'État islamique au Sahel. Mukhtar Oumar Bounza est le vice-chancelier de l'Université du Nord-Ouest au Nigeria.
Les recrues viennent aussi bien du Nigeria, du Niger que du Mali. Et elles sont issues des différentes tribus de la région. Cela les rend particulièrement dangereux. Lakourawa pose un problème sécuritaire non seulement dans le nord-ouest du Nigeria, mais aussi sur le plan international. Car ils circulent au Niger, au Mali, et nous avons même remarqué qu'ils passent parfois la frontière béninoise.
Au Nigeria, les Lakourawa se posent parfois encore en protecteurs des populations locales, mais ils peuvent aussi s'associer aux gangs armés pour mener des activités criminelles.
Ils agissent quasiment de la même manière que les bandits. Ils terrorisent les gens, les rackettent, volent leur bétail. Mais ils opèrent également dans les zones désertées par les bandits.
L'expansion du groupe Lakourawa nourrit aussi des tensions entre le Nigeria et le Niger. Les deux pays voisins se soupçonnent mutuellement de laisser prospérer cette menace djihadiste par manque de volonté ou de moyens, voire dans un but de déstabilisation.
Lisa Fabian qui interrogeait aussi hier soir le chercheur James Barnett qui travaille pour le Hudson Institute. D'où vient ce groupe ? Que cherche-t-il ? Vous retrouvez les réponses qu'il nous accorde sur notre site rfi.fr. 8h38 à Paris, 7h38 à Bamako. Le Mali, où le mano à mano entre Bamako et Barrick Gold commence à inquiéter les syndicats des mines. Alors que le pays entend récupérer à marche forcée sa souveraineté sur les ressources de son sous-sol, quitte à saisir de l'or et à entraîner la suspension des activités de l'entreprise privée, la SECMIMA essaye de braquer les projecteurs sur les premiers maillons de la chaîne. Les travailleurs eux-mêmes. Le syndicat propose même aux autorités maliennes de transition de jouer les médiateurs avec Barrick Gold. Karim Fomba, le secrétaire général de cette section commerce, mines et industrie, le rappelle, ça fait potentiellement 10 000 personnes sur le carreau.
Notre inquiétude aujourd'hui, c'est par rapport aux conséquences sociales qui peuvent découler des rapports de force entre l'État et les entreprises d'exploitation minière et particulièrement le cas du groupe Barrick Gold qui est opérateur du complexe Loulo et Gunkoto. Donc comme vous le savez, le complexe Loulo Gunkoto emploie plus de 8000 travailleurs. Ça c'est ceux qui sont pour le compte de la société mère. Et quand on y ajoute les sociétés sous-traitantes dont l'effectif concerné aujourd'hui peut atteindre les 10 000 travailleurs. Si les rapports entre l'État et le groupe Barrick doivent rester tendus à ce niveau, ça veut dire que les travailleurs risquent de connaître un chômage économique ou un chômage technique. Ils vont rester durant un certain moment sans salaire. Ça, c'est notre inquiétude par rapport à la situation actuelle. Donc, c'est pour ne pas connaître cette situation-là que nous sommes en train de lancer un cri de cœur au gouvernement de nous autoriser, de nous permettre encore de jouer le rapprochement entre le gouvernement malien et le groupe Barrick Gold pour que, en ce qui nous concerne, le désastre social qui se profile à l'horizon puisse être évité.
Karim Fomba, secrétaire général de la SECMIMA au Mali, propos recueillis par Abdoulaye Diko. Une date fixée pour l'élection présidentielle au Gabon, scrutin clé pour avancer vers la fin de la transition. Les électeurs sont appelés aux urnes le samedi 12 avril prochain, annonce hier soir du porte-parole du gouvernement. Le décret a été adopté par le Conseil des ministres. Des mines illégales en Afrique du Sud maintenant. Et l'histoire d'une évasion qui fait tache. La police a terminé ces derniers jours l'évacuation du puits de Stilfontein. 246 creuseurs ont été remontés à la surface, on le rappelle, 78 dépouilles l'ont été également. La quasi-totalité de ces creuseurs ont été interpellés dans la foulée de leur remontée à l'air libre. Mais au moins l'un d'entre eux, suspecté d'être la tête du réseau, a disparu. La police pourtant lui avait mis la main dessus, elle l'avait embarqué. Direction le commissariat, sauf que Valentin Hugues, en chemin, Tiger a pris la tangente.
Il aurait pu soudoyer des agents de police avec de l'argent ou avec de l'or. C'est ce qu'explique News24, un des principaux médias du pays. Parce que celui qui se fait surnommer Tiger, accusé d'être à la tête d'un vaste réseau de mines illégales, n'a pas pu disparaître comme ça. Après sa sortie de la mine, il a bien été arrêté et interrogé, comme les autres mineurs illégaux. Il est bien monté dans la voiture de police. Jusqu'ici, tout est normal. Seulement, aucune trace de lui au poste. Entre la mine et le commissariat, Tiger s'est tout simplement évaporé. Alors voici la piste privilégiée. La police pourrait être impliquée dans sa fuite. Un haut fonctionnaire se dit embarrassé par cette situation qui, selon lui, nuit gravement à l'image de cette large opération anti-mines illégales et ajoute que les têtes vont tomber quand les agents complices seront identifiés. La porte-parole de la police nous confirme qu'une enquête interne est en cours pour comprendre cette évasion troublante. En attendant, l'homme est toujours introuvable. Il n'a été enregistré dans aucun autre commissariat ni à l'hôpital et de nombreuses forces de police sont mobilisées pour retrouver sa trace. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
À Johannesburg et à l'écoute de la Radio du Monde. Il est 9h42, Andréane Mellard.
Merci Edouard Dupénois, belle journée à vous.